Amen. C'est un beau, dimanche ensoleillé. On est content. Gloire à Dieu. Je voudrais vous parler ce matin de quelque chose d'important parce que j'ai lu quelques articles, vous savez, au sujet de ce professeur qui était assassiné. Et j'ai réfléchi par rapport à notre engagement, nous, par rapport à la parole de Dieu. Ce qui nuit à l'œuvre de Dieu en tout temps, parmi les chrétiens je parle, ce sont des gens qui croient servir Dieu, mais qui, en vérité, ne font que ce qui dépend de leur point de vue. Et comme ce sont des individus, des êtres humains, charnels, alors ils varient en fonction des gens, de la situation, de leur intérêt. Et voilà pourquoi il y a tant de confusion dans les milieux chrétiens. Mais pas seulement dans les milieux chrétiens. Si vous prenez ce jeune homme, il a écrit, juste après avoir assassiné le professeur, il a écrit de, je ne dirai pas son nom parce que je ne veux pas dire son nom, serviteur d'Allah, à Macron, le dirigeant des infidèles, j'ai exécuté un de tes chiens de l'enfer qui a osé rabaisser Mahomet. Mais la police dit que ce garçon de 18 ans était connu pour toutes sortes d'exactions, de dégradations, de choses qui sont contre la loi de Mahomet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas écrit, n'est-ce pas, qu'on doit être un voyou quand on est un musulman. Eh bien, c'est la même chose, c'est pas écrit quand on est chrétien qu'on doit être un voyou. C'est écrit qu'on doit obéir à Dieu dans la Bible. Mais dans le Coran aussi, c'est écrit que... Alors, il se fait justicier alors que lui-même, il désobéit à la parole du prophète qu'il dit honorer. Et c'est difficile de le juger, de le critiquer, puisque la plupart des chrétiens font la même chose. Ils ne tuent pas, évidemment, comme ça, mais ils n'obéissent pas vraiment à Dieu, à ce que Dieu dit. Et ça, c'est terrible. Au cours de ma vie chrétienne, j'ai eu l'occasion de rencontrer des grands serviteurs de Dieu. Ce que j'appelle des grands serviteurs de Dieu, c'est des gens qui ont été confirmés par Dieu parce que leur prière était exaucée, parce qu'ils ont fait quelque chose qui a laissé une trace immense derrière eux, qui sont reconnus par tous les chrétiens comme des véritables enfants de Dieu. Et ces gens-là, ils avaient un point commun, ils ne pensaient pas, ils n'agissaient pas, ils ne parlaient pas, ils ne parlaient en fait, ils ne pensaient et n'agissaient que ce pourquoi ils avaient été envoyés sur terre. Ils ne parlaient pas de leur... par rapport à eux, par rapport à leur point de vue. Le point de vue peut changer. Mais la parole de Dieu ne change pas. Un véritable disciple de Jésus-Christ, il croit que la Bible, c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu ne change pas. Si Jésus a dit quelque chose une fois, c'est bon pour tous. Et on n'a pas à dire, oui, mais c'est plus l'époque. On n'a pas à dire, oh, mais c'est plus... maintenant, c'est différent. Non, c'est pas différent. Pourquoi ça serait différent? Ce qu'ils disaient, ces hommes de Dieu, ne dépendait pas de leur point de vue. Il disait et il faisait des choses qui étaient valables pour tous, parce que la parole de Dieu, elle est bonne pour tous. Et ils étaient des véritables serviteurs de Dieu. Ils n'étaient pas des gens qui se disaient serviteurs de Dieu, puis qui allaient commettre des délits à côté, en désobéissant à la parole de Dieu. J'ai eu le privilège de rencontrer de tels hommes de Dieu. Ils puisaient ce qu'ils avaient entendu auprès de Dieu, dans la Bible, et dans des moments de méditation, de la parole de Dieu, la Bible. Alors, la mauvaise influence des bricoleurs de Dieu, j'appelle ça des bricoleurs de Dieu, vient du fait qu'ils sont incapables d'écouter. Ils sont incapables d'écouter. C'est essentiel qu'un homme, qu'une femme de Dieu, qu'un disciple de Jésus s'exerce à écouter déjà premièrement ce que les gens lui disent, parce que sinon il n'apprendra pas à connaître les gens. Ils seront donc incapables de servir les gens. Un serviteur de Dieu, c'est un serviteur des gens, c'est quelqu'un qui sert la société, c'est quelqu'un qui sert l'Église, c'est quelqu'un qui est serviteur. C'est pas un maître. Jésus a dit, ne vous faites pas appeler maître, mais serviteur. Et un disciple de Jésus, qui ne s'exerce pas à écouter les gens qu'il voit, comment pourra-t-il dire qu'il écoute Dieu qu'il ne voit pas ? Or, un chrétien qui n'écoute pas est un chrétien qui n'apprend pas. Je connais beaucoup de gens qui se disent chrétiens, qui ne sont pas capables de changer d'avis au sujet de choses pourtant évidentes, qui sont écrites. Mais on leur a bourré le mot avec des idées, et puis ils restent bloqués là-dessus, et ils n'écoutent pas ce que Dieu dit, mais ils écoutent ce que les gens disent. Ce que des petits VRP en cravaté leur disent le matin, par exemple. Parce qu'ils sont tellement convaincus de la valeur de leurs opinions personnelles, religieuses, qu'ils ne peuvent plus rien apprendre. Et ça, c'est typique de notre génération laodicéenne que vous trouvez dans Apocalypse 3, 16 à 17. C'est le type de notre génération. Notre génération est comme ça. Ils se croient riches spirituellement alors qu'ils ne savent pas qu'ils sont misérables, pauvres, aveugles et nus. Comme ce garçon qui se croit serviteur de Dieu et qui va égorger un professeur. Alors que il n'est pas serviteur de Dieu, puisqu'il a, ils disent pas ce qu'il a fait de mal, mais il a commis des larcins, il était connu de la police. Quelqu'un qui est connu de la police pour des méfaits, c'est pas un serviteur de Dieu, je suis désolé. Je suis désolé. La loi de Dieu, elle est universelle. Hein? À cette époque-là, nous recevions des enseignements, je vous parle de l'époque où j'étais à Teen Challenge, sous la direction du pasteur Bill Williams, et nous recevions des enseignements de grande valeur dans notre centre de Hardricourt. C'était une maison qui nous avait été mise à disposition par la fille de Billy Graham. Vous voyez, Billy Graham, qui c'est qui ne connaît pas Billy Graham dans le milieu chrétien ? Il était, on appelait le prophète des présidents aux États-Unis. Et sa fille, reconnaissant le ministère de Bill et Joanne Williams, a mis sa maison d'Hardricourt à la disposition de cette œuvre, Teen Challenge, dans laquelle je travaillais. Vous voyez, il doit y avoir une reconnaissance de la part de Dieu, mais aussi de la part des gens qui sont, sérieux dans l'œuvre de Dieu. Je sais qu'il y en a qui critiquent Billy Graham, mais qu'il fasse déjà le centième de ce qu'il a fait, et puis on verra. Alors là où nous habitions, nous recevions des gens comme David Wilkerson. J'étais assis à côté de David Wilkerson. J'ai écouté David Wilkerson pendant des heures. Son frère Don aussi. Howard Forbes, je ne sais pas si vous avez entendu parler, cet homme extraordinaire, un homme de Dieu. Mel Grams. Qui a entendu parler de Mel Grams en France, et avec nous qui avions ce privilège-là. Et si notre équipe de Teen Challenge avait tant de succès dans l'évangélisation des rues, dans la réhabilitation des drogués, et dans la prévention contre la drogue, on était invité par des écoles, on était invité par toutes sortes de gens. Eh bien, c'est parce qu'au départ, nous écoutions. Alors nous pouvions dire des choses parce que nous avions appris, nous avions écouté. Celui qui écoute, il apprend. Ceux qui croient tout savoir Et il y en avait quelques-uns parmi nous qui étaient comme ça, qui croyaient tout savoir. Eh bien, maintenant, des années après, ça c'était dans les années 70, ce dont je vous parle, là, ces réunions à Hardricourt. Maintenant, quand je regarde la vie de ceux qui croyaient tout savoir, eh bien, je constate qu'ils n'ont fait que des progrès très lents et lamentablement insignifiants. Mes frères et sœurs, quelle possibilité de progrès peut-il bien y avoir lorsqu'une personne pense tout savoir ? C'est spécial ce que je dis ce matin, mais ces gens-là avaient tous un point commun. Et depuis les années 70 jusqu'à maintenant, nous sommes en 2021, j'ai observé la même chose partout. Tous ces gens qui ne savent pas écouter ce que la Bible dit, ils ont un point commun. Dieu leur parle. On en avait quelques-uns comme ça à Tinchange, moi j'étais tout jeune, au début j'étais impressionné. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a montré, j'ai une parole de Dieu pour toi. Il y en avait un, il venait, alors c'était presque tous les jours, il avait une parole de Dieu pour un ou pour l'autre. Un jour, moi au début j'étais impressionné, j'étais tout jeune converti, donc j'écoutais. Puis après je me suis aperçu parce que j'ai quand même une intelligence. Je me suis aperçu que c'était des niaiseries, des choses qui... Alors j'ai pris ce frère, j'ai dit, écoute, si ton Dieu n'a que des conneries comme ça à dire, il ferait mieux de fermer sa gueule. Il était horriblement choqué, mais au moins j'en ai eu fini avec cet homme-là, il ne venait plus me dire, j'ai une parole de Dieu pour toi. J'ai une parole de Dieu pour toi. Or, Dieu parle de banalité, de choses stupides, alors que il y a tant de choses importantes dans ce monde, et puis là, il n'y a rien là. Et puis, curieusement, non, c'est toujours sur une idée. Je vous rappelle, Luc, tu te rappelles, chérie, le Seigneur m'a montré, j'allais au marché, le Seigneur m'a dit, non, on ne va pas à ce marché-là, va plutôt à ce marché-là, parce que les melons sont moins chers. Dieu lui parlait. Dieu lui parlait. Mais des cas comme ça, j'en ai vu plein. Des dizaines, des camions, des brouettes. Ça revenait toujours dans leur vocabulaire, dans leur phrase. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. J'ai fait un songe. Que voulez-vous apprendre à quelqu'un à qui Dieu parle tout le temps, à tout bout de champ, et sur tous les sujets, même les plus insignifiants, surtout les plus insignifiants. Je regardais ça, et je voyais que c'était du désordre. Parce que je comparais. Je comparais, par exemple, ces gens-là avec Raphaël, quand Raphaël disait... Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Il ne disait pas, ainsi dit le Seigneur. Non, non, il disait, on fait ça, on fait comme ça. Et on écoutait parce que cet homme écoutait Dieu, entendait Dieu parler. Ils étaient un jour une dizaine, une vingtaine de caravanes à Fréjus. Ils ont été distribués des tracts pour faire des réunions. Et Dieu, dans la nuit, lui dit, attelle la caravane et va-t'en. Alors il se lève, il réveille tout le campement, il dit, on attelle les caravanes, on s'en va. Raphaël, t'es fou, on a distribué les tracts, on a loué la salle, on a une réunion ce soir. Comme vous voulez, moi je m'en vais. Comme le pasteur de l'équipe s'en allait, ils ont sont tous partis, en pleine nuit. Quelques heures plus tard, le barrage de Fréjus a lâché, et une vague de 12 mètres de boue a passé à l'endroit où ils avaient leur caravane. Ils étaient juste à côté d'une voie ferrée. Les rails étaient comme des tire-bouchons. Ils seraient tous morts. Mais il n'a pas dit, ainsi dit le Seigneur, Dieu m'a parlé. Non. Mais quand il disait quelque chose, on écoutait. Camélia, c'était la même chose. David Wilkerson, c'était la même chose. Ce que David Wilkerson a dit, les choses les plus importantes, elles se trouvent dans un livre qui s'appelle « La vision ». Mais exactement tout ce qu'il dit est là. Vous pouvez le contrôler. Il l'a dit ça dans les années 70 et c'est en train d'arriver aujourd'hui. Alors je comparais ces hommes de Dieu confirmés par Dieu, et puis tous ces petits bricoleurs à qui Dieu disait qu'il fallait aller acheter des melons ailleurs ou... Que voulez-vous apprendre à des gens à qui Dieu parle tout le temps? Ces gens-là avaient une répugnance à écouter. Ils disaient qu'ils entendaient Dieu, mais en réalité, ils avaient une répugnance à écouter. Si ces gens avaient pu être libérés de leur répugnance à accepter l'instruction pour recevoir sans hésitation, ils auraient pu avancer rapidement d'une leçon à une autre leçon, parce que c'est comme ça que Dieu nous fait avancer. Vous voyez? Alors je vous le dis, il y a des leçons qui sont très longues à apprendre. Il y a, dans le domaine spirituel, des leçons qui sont longues à apprendre. Il y a des gens qui ont un don. Il n'y a pas besoin d'apprendre, il y a le don. Mais il y en a d'autres qui doivent apprendre en lisant, en écoutant. Ne venez pas me dire « j'ai un don ». Et puis, si vous me dites ça, puis que vous avez une vie qui ne fait pas envie, moi je ne vous suis pas. Si vous avez une vie en désordre, moi je ne vous suis pas. Parce que même si vous n'avez pas un don, vous vous imaginez. Supposons que vous voulez acheter une Rolls, et vous faites venir le concessionnaire chez vous, et il arrive en deux chevaux. Il y a une incohérence, vous voyez? Eh bien, tous ces chrétiens qui disent « Dieu m'a parlé » en général, c'est des gens en deux chevaux. C'est pas pour me moquer des deux chevaux, j'en ai eu une à une époque, c'était au frère Osborne qui me l'avait offert. Mais c'est pour vous dire, il y a des critères de visibles, on voit, ce sont des gens qui sont dans le désordre. Et Dieu leur parle, je n'écoute pas des gens comme ça, comme je ne vais pas acheter à un concessionnaire Rolls qui conduit une deux chevaux, non. Pardon. Je vous l'ai dit, il y a des leçons qui sont très très longues à apprendre dans la vie. Alors nous devons être prêts à recevoir l'aide de plusieurs sources, avisées et expérimentées. Il faut éprouver les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. La première chose, c'est ça. Tu me donnes des conseils de la part de Dieu et toi, ta vie, c'est un lamentable échec. Tu me diras, ah mais c'est momentané. Ah bon? En général, c'est un état de fait, c'est comme ça. Parce que à moins de nous laisser instruire, nous ne ferons que des progrès insignifiants. C'est vrai que chaque chrétien fait quand même plus ou moins des progrès, mais c'est insignifiant. Et ça, jusqu'à la fin de leur vie. J'en ai connu un, c'est celui à qui j'ai dit, si Dieu a des conneries comme ça à dire, il a fermé sa gueule. Il a fini comme bedeau dans une église protestante. C'est-à-dire que c'est lui qui nettoyait l'église, et puis voilà, Dieu lui parlait. Vous allez me dire, mais c'était... Oui, ben voilà, c'était sa place. Mais qu'est-ce qu'il a fait comme progrès évident? Rien. Le secret des projets, des progrès spirituels, c'est la réceptivité à l'égard de Dieu. Je vais vous lire un texte dans les Écritures qui est très souvent pris, mais un peu à l'envers. C'est dans Nombre, chapitre 22, verset 7. Nombre 22, 7. Balak, attendez, où est-ce que c'est? Les anciens de Moab et ceux de Madian partirent avec des cadeaux pour aller voir le voyant, le prophète, le devin, ce que vous voulez. Ils arrivèrent chez Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez la nuit ici et je vous donnerai la réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Les chefs de Moab restèrent donc chez Balaam. Dieu vint trouver Balaam et dit, « Pardon. » Qui sont ces hommes que tu as chez toi? Tiens, bizarre, Dieu qui dit, c'est qui? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, le roi de Moab, les a envoyés me dire, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface du pays, viens donc le maudire, peut-être, ainsi pourrais-je le combattre et le chasser. Dieu dit à Balaam, tu ne les accompagneras pas, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Et Dieu fait l'innocent. C'est qui ces gens? Est-ce qu'il voulait que Balaam manifeste la véritable connaissance qu'il avait de la situation et des gens qu'il recevait? Balak envoya de nouveau. Alors, Balaam se leva le lendemain matin et dit au chef de Balak, « Partez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser vous accompagner. » Les chefs moabites se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau des chefs. Ils étaient plus nombreux et plus considérés que les précédents. Arrivés chez Balaam, ils lui annoncèrent, « Voici ce que dit Balak, fils de Tsippor. Ne te laisse donc pas empêcher de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Donc, viens maudire ce peuple pour moi. » Balaam répondit au serviteur de Balak, même si Balak me donnait sa maison pleine d'or et d'argent, je ne pourrais absolument rien faire qui enfreigne l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Bon, mais maintenant, restez donc ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint trouver Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi et accompagne-les, mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam se leva le lendemain matin, sella son ânesse et partit avec les chefs moabites. Verset 22. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Oh ! Pourtant, c'est Dieu qui lui a dit de partir. Il joue à quoi, Dieu ? Il joue pas. Il ne joue pas. Est-ce que vous avez compris quelque chose d'important là? Dieu parle à Balaam, et Balaam redemande à Dieu la même chose qu'avant. Qu'est-ce que Dieu fait? Un truc terrible. Et en faisant ce truc terrible, Dieu révèle son caractère, Dieu révèle comment il est. Mais s'il est comme ça avec Balaam, il est comme ça avec tout le monde. Dieu a envoyé Balaam se balader, voilà. Avec une ânesse. Il lui avait dit de ne pas y aller. Il redemande, est-ce que je peux y aller? Dieu lui dit, oui, vas-y, vas-y. Balaam obéit à ce que Dieu lui a dit la deuxième fois. Et ça a mis Dieu en colère. Vous voyez comment est Dieu? Dieu ne lui a pas dit, mais c'est déjà dit hier, il ne fallait pas y aller, pourquoi tu me redemandes? Non. Dieu rentre dans le jeu de Balaam, il dit, ben vas-y. Et il se met en colère, il se met en rogne contre Balaam. Balaam n'a pas pris Dieu au sérieux la première fois. Vous voyez comment Dieu est? Vous voyez le caractère de Dieu? Celui que vous appelez votre tendre Père Céleste, vous voyez comment il est? Il est notre tendre Père Céleste. Mais avec les Balaam, avec les gens qui ne sont pas d'accord avec sa parole et qui contestent et qui disent « Oui, mais c'est plus pour aujourd'hui. Ah oui, non, mais le lavage des pieds, c'est plus pour aujourd'hui. Ah oui, mais le baptême pour les morts, c'est plus pour aujourd'hui. Ah mais oui, mais vivre en communauté, c'est plus pour aujourd'hui. Ah mais oui, mais l'imposition des mains aux malades, c'est plus pour aujourd'hui. Ah oui, mais le baptême par immersion, c'est plus pour aujourd'hui. » Vous êtes une bande de Balaam. Et vous dites, notre tendre Père Céleste, il vous fait balader, et il vous balade en ânesse. Combien de chrétiens font comme Balaam de nos jours? Dieu dit ce que nous devons faire dans la Bible. Et les chrétiens demandent à Dieu s'il doit vraiment faire ce qu'il a déjà dit dans la Bible. Alors Dieu les envoie promener, il les envoie promener, il est en colère, hein. Mais Dieu les envoie promener, et voilà, Dieu les envoie se balader avec une ânesse. Et Dieu est obligé d'utiliser Le mort, vous savez ce que c'est le mort? C'est un machin qu'on met dans la bouche des chevaux, là, des ânes, tirés à gauche, à droite. Il leur met des rênes, c'est-à-dire des lois, des trucs terribles, des lanières, du fouet, des éperons même des fois, pour leur redonner conscience de sa présence, de son dessein et de la sainte valeur des écrits bibliques. L'inaptitude à recevoir les directives écrites de Dieu est une des conséquences des portes fermées qui se trouvent dans la vie des chrétiens. Qu'est-ce que le diable a dit à Ève ?
Mais est-ce que vraiment Dieu a dit qu'il ne fallait pas manger des arbres du jardin ?
Mettre en doute la parole de Dieu. Il n'y a rien qui peut le mettre en colère. Tout vient de là. Dieu les balade, ces gens-là. Il a envoyé balader Balaam, mais il en a envoyé d'autres balader aussi. Rappelez-vous comment il a envoyé le peuple juif se balader 40 ans dans le désert qu'ils auraient pu traverser en quelques jours. Dieu les a envoyés balader, promener. Et ils ont tourné en rond, et vous tournez en rond, et vous demandez « Pourquoi, Seigneur ? Bénis-moi, délivre-moi du diable !»
C'est pas le diable, c'est Dieu qui te fait promener. Parce que tu n'écoutes pas ce qu'il dit. Parce que tu ne fais pas ce qu'il dit. Et tu dis « Dieu me parle ». Non, Dieu ne te dit rien du tout, mon pauvre. Rien du tout.
Ce qu'il te dit, c'est dans la Bible. Si tu ne fais pas déjà ce qui est dans la Bible, il ne va rien te dire d'autre. Ou alors, il va te parler comme il a parlé à Balaam la deuxième fois. Ah ben oui, c'est une bonne idée, vas-y. Alors que le jour avant, il avait dit de ne pas y aller. Vous comprenez maintenant ? Dieu n'aime pas, mais alors pas du tout, qu'on ne prenne pas au sérieux ce qui est écrit dans la Bible. C'est une chose qu'il ne supporte pas, c'est qu'on trafique sa parole, qu'on méprise certains textes. Enfin non, c'est plus pour aujourd'hui. Oh ben non, moi, Dieu ne m'a pas appelé à ça.
Ah bon ?
Balaam, il savait que Dieu ne voulait pas qu'il aille avec les bergers envoyés par, avec les gens envoyés par Balaam. Il ne voulait pas, Dieu. Et Balaam savait très bien. Dieu le lui avait dit. Ben non. Il redemande. Alors Dieu lui dit, ok, vas-y. Pourquoi Dieu fait un truc pareil ? Dieu serait-il vicieux ? Non, c'est Balaam qui est vicieux. Et Dieu est vicieux avec les vicieux. Voilà, c'est pas écrit ça ? Il agit selon la folie des fous. N'est-ce pas écrit ? Bien sûr que c'est écrit. Parce que mes frères et sœurs, en revenant à la charge vers le Seigneur pour lui redemander ce qu'il avait déjà demandé, et puis il avait eu sa réponse, Balaam démontrait qu'il ne cherchait pas vraiment la pensée de Dieu. Il avait une autre idée derrière la tête. En fait, sa décision était déjà prise. Il savait ce qu'il avait envie de faire. Il mettait tout en œuvre pour y arriver sous couvert d'une allure religieuse. Je vais aller demander à Dieu. Je vais aller demander à Dieu. Si Dieu te dit « va », tu ne discutes pas, tu n'attends pas et tu y vas. Voilà. Si Dieu te dit « ne va pas », tu ne discutes pas, tu ne vas pas et puis c'est tout. Mais ceux qui ne prennent pas au sérieux la parole de Dieu enseignée sont tellement ancrés dans leurs idées qu'il leur faut beaucoup de temps avant de pouvoir se conformer à son ordre. Alors, Dieu les envoie balader sur le dos d'une ânesse. Et puis, quand ils se mettent à obéir, ils sont plus que des vieux grigous qui ne peuvent presque rien faire. Alors que Dieu les avait appelés jeunes pour faire une œuvre magnifique. Et ils ne l'ont pas fait, ils se sont donné des excuses. Ils n'ont pas écouté Dieu.
Alors, ils se baladent toute leur vie. Ils se baladent. Il leur faudra beaucoup d'expériences douloureuses. Il leur faudra apprendre à s'ajuster à la pensée de Dieu. En passant par toutes sortes d'épreuves incompréhensibles, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi ça m'arrive, mon Dieu? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Si Dieu vous demande une chose, est-ce que vous êtes en mesure de tout abandonner et de faire ce qu'il dit? Tout de suite! Et si Dieu vous dit, alors, que vous êtes en train de faire ce qu'il vous a dit, s'il vous dit, stop, tu ne le fais pas, est-ce que vous êtes capable d'arrêter spontanément, instantanément? Vous voyez, quand un chrétien devient un disciple, il y a une différence, une terrible différence. Quand un chrétien devient un disciple, il est devenu une personne maniable entre les mains de Dieu. L'obéissance, elle est instantanée à toute nouvelle indication du Seigneur. Souvenez-vous d'Abraham. Il obéit sans discuter. Dieu lui dit, je vais te donner un fils, tu vas avoir il va sortir de lui des nations, c'est quelque chose de grandiose. Hein. Et puis, quelque temps après, il lui dit, va et tu m'offres ce fils en sacrifice. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il dit pas, oui, mais alors comment cette prophétie va s'accomplir si Dieu me dit d'offrir mon fils en sacrifice, enfin, je comprends pas bien. Non, il obéit tout de suite, il y va. Et puis au dernier moment, Dieu lui dit stop, et Abraham s'arrête. Il avait le couteau levé, il était prêt à tuer son gamin. Quelles sont vos pensées? Quels arguments invoquez-vous pour vous opposer aux ordres que Dieu vous a donnés? Déjà dans la Bible, et peut-être même par prophétie, Vous voyez pourquoi Abraham est appelé le père de la foi? Il n'est pas appelé le père de la foi parce qu'il croyait en Dieu, non, jamais. Il est appelé le père de la foi parce qu'il s'était exercé à écouter et à obéir sans discuter. Voilà pourquoi il est appelé le père de la foi. Et il n'est pas votre père si vous n'êtes pas cette sorte de personne-là. Vous vous illusionnez. Repentez-vous. Et réfléchissez. Dieu dit à Abraham de faire une chose, puis il lui dit de faire, de ne pas la faire. Change d'avis. Moi, à la place d'Abraham, vous auriez été troublé. Vous auriez dit non, Dieu m'a dit de le faire, alors je le fais. Crac, je tue mon gamin. Là, je crois que vous auriez obéi, non? Est-ce que vous auriez pensé, oh, c'est difficile de discerner quelle est la volonté de Dieu. Beaucoup de gens me disent ça. Ça m'énerve tellement. Un jour, j'ai posé la question à T.L. Osborne. J'ai une vidéo, il faudra que je la mette un jour sur Révélation Bible. Révélationbible.fr, le site. Et je lui demande, frère Osborne, comment pouvez-vous savoir si c'est la volonté de Dieu que vous alliez prêcher au Cameroun alors que vous avez d'autres invitations à gauche, à droite et tout? Il dit, il n'y a rien de plus facile que de savoir quelle est la volonté de Dieu. Je dis, ah bon, il n'y a rien de plus facile? Il dit, non, il n'y a rien de plus facile. Il a dit, allez par tout le monde, le Cameroun, ça fait partie du monde, j'y vais. Si on m'invite au Congo, je leur dis, je viendrai un peu plus tard, c'est tout. Rien n'est plus facile. Dieu a dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne parole. Mais je le fais. Maintenant, s'il ne veut pas que j'aille au Cameroun, il va tout faire pour m'empêcher d'y aller, puis c'est tout. C'est pas compliqué. Il n'y a rien de plus simple que de connaître la volonté de Dieu. Elle est écrite. Elle est écrite. Alors vous avez été jeune, puis vous avez pris de l'âge, puis maintenant vous êtes perplexe parce que vous pensez à tous les problèmes que soulèverait ce que Dieu vous a demandé de faire quand il vous appelle par les Saintes Écritures. Et puis vous avez suivi votre propre logique, hein, en la spiritualisant évidemment, en la spiritualisant, ou en accusant les autres, c'est la faute des autres. Vous voyez, je vais dire une phrase terrible qui devrait être inscrite en gros dans votre chambre. La simplicité de la volonté de Dieu est devenue tributaire de la complexité des pensées personnelles des chrétiens. Notez cette phrase. Et il vient dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Ouais, Dieu aussi parlait à Balaam. Hein. Bon, les gens qui disent Dieu m'a parlé, en général, c'est j'ai mes écoutilles qui se ferment. J'écoute pas. Ça, j'écoute pas. Les gens qui viennent avec la bouche en cul de poule. Le Seigneur m'a donné une parole pour toi.
Ouais.
Dieu a envoyé Balaam se promener, et moi j'écoute pas les promeneurs. Pour terminer, on va lire psaume 32, verset 8-9. Psaume 32, verset 8-9. C'est Dieu qui parle et qui dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » J'aurai le regard sur toi. Alors, ne sois pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors, avec une bride, dont on les orne, afin qu'ils ne bousculent pas tout.
Eh oui.
Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Alors que le pape et le grand chef des musulmans et tous les grands de ce monde, financiers, politiques et compagnie, sont en train de discuter pour faire un pacte mondial. C'est le dernier jour aujourd'hui. Ils sont en train de bien vous ligoter avec quelque chose qui va vous surprendre, n'est-ce pas? Vous en êtes encore à croire que la puce, c'est ça la marque de la bête? Non, la marque de la bête, ça sera de prendre leur pacte. De se soumettre à ce pacte. Vous voulez pas me croire? Allez vous balader! Pour terminer, je vais vous demander de faire un exercice. Pendant cette semaine, pas cette semaine, chiffre 7, pendant la semaine qui vient là, prenez l'évangile de Matthieu et vous le lisez avec un stabilo. Et vous allez souligner tous les commandements impératifs que donne Jésus. Parce que beaucoup de monde me dit, on est plus sous la loi, on est sous la grâce. On est sous la loi de Christ. Vous savez combien il y a de commandements impératifs de Jésus, rien que dans l'évangile de Matthieu? Il y en a 51. 51 commandements impératifs. Comptez sur les 51 combien vous mettez en pratique. Après, vous pourrez vous dire serviteur de Dieu. Sinon, vous êtes comme le petit musulman qui dit « Je suis serviteur d'Allah », qui commet des larcins, qui est connu de la police et tout, et puis qui se dit serviteur de Dieu. Vous n'êtes pas serviteur de Dieu si vous n'obéissez pas à ces 51 commandements, ne serait-ce qu'à ces 51 commandements qu'on trouve dans Matthieu. Il y en a d'autres encore dans tout le Nouveau Testament. Mais déjà, rien que dans l'évangile de Matthieu, il y a 51 commandements impératifs que Dieu vous donne à vous, c'est-à-dire à tous ceux qui croient en lui. Vous dites, je crois en Dieu, ce n'est pas la preuve que vous avez la foi. La preuve que vous avez la foi, c'est que vous faites ce que Dieu dit. Amen. Jésus, je te prie de bénir ces paroles et de permettre que mes frères et sœurs comprennent et que véritablement ils rentrent dans ce rétablissement de toutes choses que tu as annoncé. Merci Jésus. Et puis si vous ne voulez pas, je vais vous donner un conseil comme Dieu a donné à Balaam afin de vous envoyer promener. Si vous ne croyez pas à ce que je vous dis, cherchez-vous donc un prophète. Il y en a plein de ces prophètes qui disent des choses, hein, qui vous plaisent. Allez les écouter. Voilà. Ça vous baladera. Dieu vous bénisse. Au revoir.